Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Discours de la Sorbonne, acte 2 jeudi dernier, avec à la clé cet avertissement.
Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle.
Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Interrogé sur la nature de ses décisions à prendre dans un contexte géopolitique instable, Emmanuel Macron n'a pas exclu de mettre la dissuasion nucléaire tricolore à disposition de ses voisins européens, sachant que la France est le seul État des 27 doté de la bombe.
Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible.
Ces propos du chef de l'État ont provoqué un lever de bouclier dans l'opposition.
Emmanuel Macron nous dit qu'il veut lancer un débat sur la mutualisation de la dissuasion nucléaire avec les pays européens. Là, nous touchons au nerf même de la souveraineté française.
C'est une folie et c'est complètement irresponsable, parce que ça augmente le risque de conflit nucléaire en Europe.
En ouvrant le débat de la dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron relance son projet de défense commune européenne à un moment où des incertitudes planent. S'il est réélu, Donald Trump se désengagera-t-il de l'OTAN ? L'Europe devra-t-elle se passer du parapluie américain, tandis que Vladimir Poutine est perçu comme menaçant à l'Est ?
Vous avez des capitales européennes qui, fondamentalement, ont peur, voient bien que ce qu'est l'OTAN, tel qu'ils ont pu le connaître, pouvait, du jour au lendemain, évidemment, ne plus être ce qui a été connu.
Alors, le contexte géopolitique va-t-il conduire à repenser la dissuasion nucléaire ? Sous quelle forme ? La France doit-elle partager son arsenal nucléaire ?
Nos trois invités, Bruno Tertrais, bonsoir, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je signale votre livre « Pax Atomica » paru cette année chez Odile Jacob. Selon vous, Emmanuel Macron ne propose pas de mutualiser notre force de dissuasion. Ce qu'il propose, c'est de dialoguer autour de cette question. Et ce qui est sûr, ajoutez-vous, c'est qu'il ne peut pas y avoir de partage de décision en la matière. À côté de vous, Laura Kayali, correspondante défense à Politico Europe. Selon vous, Laura Kayali, la France pourrait tout à fait partager ses armes nucléaires avec les Européens. C'est ce que font déjà les États-Unis et le Royaume-Uni, mais cela demande d'énormes ajustements. On verra lesquels, en l'occurrence, au cours du débat. Et enfin, Annick Pincé, bonsoir monsieur, historien au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques, le CIENS. Vous êtes un spécialiste de l'histoire nucléaire. Selon vous, ce n'est pas la première fois que la question d'un partage de nos armes nucléaires se pose. Il y avait déjà eu un débat dans les années 70 à 27, en l'occurrence. Ce serait quand même très compliqué de mettre cela en place. Et on démarre avec le mot du jour.
Les mots du jour. Intérêts vitaux. Ils sont donc signés, ces mots, Emmanuel Macron dans l'interview qu'il a donnée la semaine dernière aux journaux du groupe EBRA, dont l'Alsace. La doctrine française consiste, explique le chef de l'État, à utiliser l'arme nucléaire quand nos intérêts vitaux sont menacés. Et il ajoute, il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux. Bruno Tertrais, ça veut dire quoi? Si par exemple, hypothèse d'école, mais prenons-la, l'Allemagne est attaquée, est-ce qu'on se devrait automatiquement de réagir?
Premièrement, il n'y a qu'une seule personne qui le sait, c'est Emmanuel Macron. Les intérêts vitaux, c'est une notion qui existe depuis le temps du général de Gaulle, plutôt exactement de Georges Pompidou. Ça consiste à dire, voilà, on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire pour défendre, pour plutôt dissuader un adversaire de s'en prendre à toute forme de menace militaire. Mm-hmm. En revanche, les intérêts les plus graves, les plus essentiels, le territoire, la population, la souveraineté de la France, ça c'est vital pour le pays. Et c'est ça que protège la dissuasion nucléaire. C'est une expression, encore une fois, qui a toujours existé. Simplement, depuis François Mitterrand, et de plus en plus, j'allais dire, à chaque président, on monte un petit peu d'une marche, les présidents successifs ont dit, aujourd'hui, on ne peut plus concevoir les intérêts vitaux de la France sans prendre en compte l'Europe, pourquoi? Parce que nos intérêts sont de plus en plus...
Interdépendants.
L'Allemagne, qui était déjà considérée par le général de Gaulle et par Georges Pompidou, Yannick, à mon avis, s'en souvient, lui qui est un grand historien, il le connaît, puisqu'il est un grand historien, il n'est pas vieux. Georges Pompidou disait déjà devant l'Assemblée nationale, force de dissuasion, elle protège déjà l'Europe. Simplement, plus ça va, plus on considère que ça protège l'Europe. Mais est-ce que ça... La question centrale, oui. C'est est-ce que ça persuade Vladimir Poutine et les autres ?
Ça, on va y venir.
Oui, mais c'est à ça qu'on faisait allusion, évidemment.
Mais Laura Kayali, il y a une clause de défense mutuelle des 27 qui prévoit que si l'un des 27 membres fait l'objet d'une agression armée, les autres doivent lui porter assistance, je cite, par tous les moyens en leur pouvoir. Donc on se dit, ça veut dire que l'arme nucléaire est déjà prévue ou pas ? Par cette clause qu'on a découverte. Pour tout dire.
Mais vous avez des degrés, c'est-à-dire que si un des pays de l'Union européenne est envahi par des forces terrestres, la France n'est pas tenue de répondre par une arme nucléaire, ce qu'on appelle les forces conventionnelles. Et c'est la même chose au sein de l'OTAN. Si la Russie décide d'envahir l'Estonie, les pays de l'OTAN sont tenus de répondre, mais pas avec une arme nucléaire, avec des forces terrestres, en fait. Donc vous avez des degrés de force et de réponse et de dissuasion.
Mais le nucléaire peut intervenir in fine ou pas dans cette gradation-là ? De par cette clause de défense mutuelle.
Mais ça, encore une fois, c'est seulement le président de la République française qui a la réponse à cette question.
D'accord, mais ça peut faire partie, théoriquement, Yannick Pincé, du dispositif, si j'entends bien.
L'objectif du dispositif est tout de même de ne pas en arriver là. Nous avons des troupes qui sont stationnées dans les pays de l'Est. Il faut savoir que toute agression de la Russie contre un pays de l'Est exposerait, même s'ils sont peu nombreux, des soldats français. Et donc la Russie s'engagerait éventuellement à les tuer des soldats d'un pays doté de l'arme nucléaire. D'où l'intérêt, justement, de la dissuasion.
Alors, vous avez rappelé, Bruno Tertrais, que la dimension européenne de la dissuasion n'est pas nouvelle. Ça va être l'objet de la dissuasion nucléaire, l'objet de notre archive. Regardez, janvier 1983, François Mitterrand s'adresse aux députés allemands du Bundestag.
Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Seul cet équilibre, au demeurant, peut conduire à de bonnes relations avec les pays de l'Est, nos voisins et partenaires historiques. Mais le maintien de cet équilibre implique, à mes yeux, que des régions entières d'Europe occidentale ne soit pas dépourvu de parade face à des armes nucléaires spécifiquement dirigées contre elles.
Bruno Tertrais, c'est donc pas nouveau. François Mitterrand l'évoquait déjà dans un discours qui a été largement remanié.
Oui, parce que pour la petite histoire, quand on lui présente le premier projet de ce discours, il écrit dans la marge « c'est tragiquement nul », l'expression est très, très mitterrandienne. Alors là, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'abord et avant tout de dire à l'Allemagne, vous n'êtes pas seul dans ce débat qu'on appelait celui des euromissiles, on était vraiment au plus fort de la guerre froide, plutôt de la deuxième guerre froide, 1983. François Mitterrand ne parlait pas encore de protéger l'Europe avec la force de dissuasion française. Il y a des conversations avec l'Allemagne 3 ans plus tard. Là encore, Yannick connaît ça très bien. On s'engage à se consulter. Mitterrand dit « Bon, je veux bien consulter l'Allemagne si jamais on doit tirer sur le territoire allemand. » Imaginez. Mais c'était tout. Ça n'est qu'à partir de la fondation, de la création de l'Union européenne que Mitterrand dit « Attendez, bon, on a deux pays dotés de l'arme nucléaire, la Grande-Bretagne à l'époque et la France. » Et ceux qui ne sont pas, comment est-ce qu'on fait pour éviter que cette différence de statut pose un problème à l'intégration européenne ? Et depuis lors, effectivement, on a avancé sur ce sujet.
Alors, Laura Kayali, si on prend l'option d'une mutualisation, imaginons que cette mutualisation arrive, c'est ce que semble proposer quelque part Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi, très concrètement ? On dispatche des armes nucléaires françaises sur les territoires européens, on les garde sur notre territoire et on intervient. Comment ça se passe ?
Alors, ce que font les Américains, dans ce qu'on appelle le parapluie nucléaire américain, c'est que certaines flottes d'avions de certains pays, dont l'Allemagne par exemple, ou la Belgique ou l'Italie, peuvent porter des missiles nucléaires. Et donc, si on parle, c'est très hypothétique.
Hein. Théorie, bien sûr, mais bon.
Si un jour, c'est ce que la France décide de faire, la marche serait très haute parce que les pays européens ne sont pas... Enfin, la très grande majorité des pays européens ne sont pas équipés d'avions français.
Et vous considérez que c'est possible que
c'est, mais techniquement, c'est dans le domaine, j'imagine que c'est possible si les Américains peuvent le faire, mais il faudrait que les pays européens achètent des avions français.
Même si les missiles français pourraient être emportés théoriquement par des avions américains, rien ne s'y oppose, mais ça serait très coûteux, il faudrait l'accord des États-Unis. Autant dire que pour l'instant, on n'en est pas là.
Par rapport à cette notion de mutualisation.
La mutualisation, encore une fois, c'est Bellamy qui en parle, ce n'est pas Macron. Hein. Il n'y a pas question.
François Bellamy qui est la tête de liste européenne.
C'est vrai que sur le papier, c'est tout à fait concevable. Oui. Si tout le monde était d'accord, si les Européens en voulaient, il n'est absolument pas question de le faire. Et à mon sens, on ne l'envisagera pas tant qu'il y aura encore ce partage nucléaire américain qui vient d'être évoqué à l'instant,
Yannick Pincé. Alors, on dit que c'est théorique. On espère que tout ça restera théorique. On pensait qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ceci étant dit, est-ce qu'en effet, puisqu'il y a le parapluie américain, ça viendrait se superposer à ce parapluie américain, comme on dit, il y aurait un autre parapluie européen ? C'est ça la mutualisation qui s'ajoute à une autre ?
Déjà, en ce qui concerne la mutualisation, si jamais on en arrivait à l'hypothèse qui a été évoquée par Laura, il faut savoir que les armes resteraient sous contrôle français et que l'ordre resterait en fait à Paris.
Et, éventuellement, et par le président de la République.
Oui, tout à
fait. C'est cette fameuse expression de qui appuie sur le bouton rouge et qui donne les ordres.
Donc il n'y aurait là, de toute manière, pas de perte de souveraineté à ce niveau-là.
De même que les armes américaines dispatchées en Europe, c'est Washington qui a toujours la décision. La décision est à Washington.
D'accord.
C'est pas Berlin qui peut décréter tout seul d'utiliser l'arme nucléaire américaine.
C'est aussi pour cela, d'ailleurs, que c'est essentiellement une manœuvre politique avant d'être militaire. C'est créer un tissu de solidarité nucléaire. On appelle ça le partage du fardeau, le partage des risques et des responsabilités. Ça existe depuis les années 1960. Mmh. C'est fait autant pour rassurer les Européens que pour leur donner une responsabilité, pour qu'ils aient aussi, ça date des années 1960, on ne voulait pas que l'Allemagne soit tentée de faire son propre programme nucléaire. Mmh. Et donc, ce partage, comme on l'appelle, était aussi destiné à cela.
Oui, Yannick Pincé.
Oui, si je peux ajouter un élément, c'est que ça fait quand même quasiment 80 ans qu'on parle de défense nucléaire, de défense européenne, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, nous sommes soupçonnés d'un certain cavalier seul.
Nous, il y a une
forme,
Français.
Oui, nous, Français. Une forme d'égoïsme. Il y a un certain tabou gaulliste à la fois chez nous et chez nos partenaires. Et je trouve qu'Emmanuel Macron a cette fois-ci abordé la chose plutôt avec humilité. Ça ne s'est pas fait par une grande déclaration, donc ça n'a pas été quelque chose de tonitruant. Et le fait d'ajouter dans sa déclaration une ouverture en ce qui concerne la défense antimissile qui poserait quelques problèmes en fait, de crédibilité à notre dissuasion nucléaire, est une manière de montrer à nos partenaires européens que nous sommes ouverts à la discussion.
Oui, alors, on reviendra tout à l'heure sur la défense antimissile.
Mais cette proposition d'Emmanuel Macron, ce qui semble l'être, parce que tout ça reste quand même très précaire pour l'instant, de partager notre arsenal intéresse certains pays.
Pardonnez-moi, il ne parle pas de partage. Excusez-moi, mais
je vous dis,
les mots sont importants.
C'est pour ça,
ni mutualisation, ni partage.
Vous avez raison de
c'est que dans la tête des opposants.
C'est pour ça que je vous dis que tout ça semble être une proposition, mais encore faut-il en déterminer les contours, vous avez raison de le dire. En tous les cas, quels que soient ces contours indéfinis, ben certains pays l'ont pris à la lettre, et c'est le cas de Donald Tusk, le Premier ministre polonais, social-démocrate, qui se dit intéressé.
L'Europe doit investir davantage dans sa sécurité. Je prends très au sérieux les propos du président Macron, selon lesquels la France serait prête à mettre ses capacités nucléaires à la disposition de l'Europe dans le cadre d'un plan de sécurité paneuropéen.
Voilà ce qu'a compris Donald Tusk. Il l'a déjà pris au mot avant même qu'en effet que la proposition soit clairement définie.
Mais elle n'a pas à être plus clairement définie. La
d'accord, elle ne, sera pas. Elle ne le sera pas.
Pour l'instant, non, je ne crois pas. Si jamais Trump est élu, ça sera peut-être autre chose.
Alors, on va y venir.
Mais là, pour l'instant, Emmanuel Macron ne dit pas beaucoup plus que ce qu'il a déjà dit il y a un peu plus de 4 ans, en février 2020. Les Polonais, depuis le changement de gouvernement, ils sont. La relation franco-polonaise est bien meilleure aujourd'hui
qu'elle ne l'était
à tous les plans.
Gouvernement précédent.
Et on parle déjà, je peux vous dire qu'on parle déjà de ce sujet entre gouvernement français et gouvernement polonais à un haut niveau et de manière très sérieuse. De même que les Allemands aussi, on en parle de manière beaucoup plus libre que ça n'était le cas il y a quelques années. Le ministre des Affaires étrangères polonais, M. Sikorski, a d'ailleurs parlé ouvertement à la conclusion d'une réunion à trois dans le format Weimar, c'est-à-dire Weimar, c'est France, Allemagne, Pologne. Il a dit, la dissuasion française, ça peut être une sorte d'assurance complémentaire. Donc là, on est déjà dans le vif du sujet et ça n'aurait été possible, cette discussion, qu'avec ce changement de gouvernement.
Laura Kayali, si jamais Donald Trump était élu en novembre, qu'est-ce que ça changerait par rapport à l'OTAN et l'engagement américain à propos duquel Donald Trump a déjà émis un certain nombre de menaces de se désengager précisément ?
Alors c'est vraiment la question qui agite les dirigeants européens. Il y aurait plusieurs options. Sans même vraiment quitter l'OTAN de façon formelle, Donald Trump pourrait tout simplement s'en désintéresser, car pour les Américains et surtout les Républicains, la priorité c'est vraiment la Chine, donc toute la région Indo-Pacifique, beaucoup plus que l'Europe. Et donc, il pourrait arrêter d'envoyer les meilleurs généraux au sein de l'OTAN.
De financer
Financement, ça se décide à plusieurs, donc c'est un peu plus difficile d'arrêter de donner des sous, mais il pourrait retirer petit à petit des troupes. Enfin, il y a plusieurs choses qu'il pourrait faire. Et un désintérêt politique, parce que l'OTAN, c'est une alliance militaire, mais c'est aussi une alliance politique avec une espèce de certitude que si vous êtes attaqué, on viendra vous aider. Et donc, s'il y a une attaque, encore une fois, pour reprendre un pays balte en Estonie, et que les Américains, par la Russie, bien sûr, et que les Américains traînent un peu des pieds, sans quitter l'OTAN, mais traînent un peu des pieds à venir en Europe pour soutenir les Européens, l'OTAN est mort, en fait.
Mais Yannick Pincé, dans cette hypothèse-là, la France devient centrale. On est le seul pays en Europe depuis le départ de la Grande-Bretagne et le Brexit à avoir l'arme nucléaire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a 290 ogives. Il faudrait qu'on augmente notre potentiel d'abord pour nous, mais aussi éventuellement pour les autres pays européens, et que nous payions cela.
Alors, déjà à la base, imaginons ce que ça représente 290 missiles, même si c'est un compas. 290 armes nucléaires.
On va le voir, c'est rien par rapport aux autres puissances. Alors,
certes, c'est rien par rapport aux autres puissances, mais rien qu'avec un tiers de cet arsenal, on est capable d'entraîner des conséquences absolument dévastatrices sur la Russie, sur l'Europe et même le monde. Donc, il y a déjà cet aspect-là. C'est pas forcément tant, si vous voulez, le nombre d'armes nucléaires, même si on l'a pensé en tant que stricte suffisance, à la fois pour des raisons de moyens, mais aussi pour des raisons en fait, de faire accepter la dissuasion nucléaire aux Français, en disant on ne garde que ce qui est strictement nécessaire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit en fait, avec ces armes, c'est que sans forcément augmenter le nombre d'ogives, peut-être pourrions-nous augmenter le nombre de vecteurs et le nombre de moyens de les délivrer. Nous avons à l'heure actuelle seulement un moyen de délivrer par mer, c'est-à-dire les sous-marins, et par air, par les rafales. Nous avons renoncé à ce que l'on appelait l'arme tactique dans les années 90. Ça pourrait être éventuellement une option.
C'est quoi l'arme tactique?
Alors, c'est une arme en fait qui vise. Alors, on a tendance à dire, en simplifiant les choses, on dit que c'est une petite arme nucléaire. Ce n'est rien de petit, ça reste une arme nucléaire, mais qui vise des cibles militaires et que l'on envisageait dans notre doctrine du temps de la guerre froide à des fins d'ultime avertissement, c'est-à-dire un tir d'avertissement avant de passer au stratégique. Mais ce que nous avons est déjà très bien. D'ailleurs, les Anglais, le débat stratégique chez les Anglais est de copier ce que font les Français puisqu'ils n'ont plus que les sous-marins.
Dire. Alors, on parle. Oui.
Juste un tout petit mot. Vous avez dit les Britanniques ne sont plus dans l'Europe. Attention, dans le domaine nucléaire, on ne parle pas du tout de l'Union européenne. Les Britanniques et les Français sont ensemble. Si on débat de ce sujet, je peux vous dire que ça ne sera pas à Bruxelles, à la Commission ou au Conseil. Tout ça est hors de l'Union européenne.
D'accord. Alors, on parle de dissuasion nucléaire. On va parler avec vous, Anna, du bouclier antimissile européen.
Oui, à la question « Faut-il un bouclier antimissile européen ?», Emmanuel Macron a répondu « Peut-être ». C'était jeudi à la Sorbonne. Alors, surprenant et étonnant, puisque jusqu'à maintenant, eh bien, il était plutôt contre le Sky Shield, ce projet donc, de bouclier antimissile, porté par l'Allemagne. Alors, sur le principe, le Sky Shield, qu'on appelle aussi bouclier du ciel, est en fait similaire au dôme de fer israélien, qui, au passage, a montré son efficacité il y a deux semaines lors de l'attaque de drones iraniens. Donc, ce bouclier, il n'est pas une bulle de protection au-dessus de l'Europe, mais comme en Israël, il s'agit en fait de plusieurs batteries antimissiles qui seraient stratégiquement disséminées sur le continent pour pouvoir intercepter des missiles en plein vol en cas de menace. Alors, c'est l'Allemagne, je l'ai dit, qui pilote ce projet. Elle a déjà mis la main au portefeuille en achetant pour 3,5 milliards d'euros le système israélien Arrow 3. Et en deux ans, 20 pays européens ont déjà rejoint cette initiative. Mais pas la France, car jusqu'à maintenant, elle estimait que sa force de dissuasion nucléaire était suffisante pour la protéger. Il y a aussi une autre raison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bruno Tertrais, est-ce que ça veut dire que notre dissuasion ne fait plus assez peur ?
Regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe en Israël. Très clairement, il peut y avoir des menaces contre des pays, des territoires de grande ampleur tous les jours en Ukraine.
On a la menace russe.
Et on l'a vu mi-avril avec cette attaque iranienne tout de même tout à fait conséquente contre le territoire israélien. Que je sache, Israël n'a pas répondu par l'arme nucléaire. C'est donc bien la preuve que la dissuasion nucléaire ne couvre pas tout et c'est tout à fait normal de vouloir se protéger contre ce type de menace.
Donc ça veut dire que les deux sont complémentaires ?
Tout à fait, et d'ailleurs, la complémentarité, je suis content que vous prononciez ce mot, parce que Jacques Chirac lui-même, à la fin des années 90, avait dit, écoutez, arrêtons ces débats entre dissuasion nucléaire et défense antimissile, il peut y avoir une complémentarité entre les deux. Simplement, la raison pour laquelle la France était très réticente et continue de l'être vis-à-vis de Sky Shield...
Parce qu'il n'y avait aucun système français...
C'est parce que
voilà, c'est essentiellement une question, pour moi, une question beaucoup plus industrielle que conceptuelle. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
C'est-à-dire d'égo ?
Non, pas d'égo, de gros sous.
Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si la France change d'avis, c'est parce que peut-être qu'on pourra lui acheter ses systèmes français ? C'est ça qui fait changer Emmanuel Macron d'avis ?
Alors, seul Emmanuel Macron sait ce qu'il a
fait. Ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Oui, et sur la différence entre l'industriel et le conceptuel ?
Oui, bien sûr, parce que le projet allemand, c'est d'acheter en commun des systèmes allemands, évidemment, américains et israéliens. Et dans le même discours que vous évoquiez, Emmanuel Macron disait aussi qu'il faut une préférence européenne pour les achats d'armement. Donc quand il dit pourquoi pas un bouclier antimissile, ça ne veut pas nécessairement dire pourquoi pas le bouclier antimissile allemand. Mm-hmm. Et donc lundi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et son homologue italien Guido Crosetto ont annoncé une accélération du développement du système de défense antiaérienne franco-italien. Mmh. Donc de l'accélération du développement de la nouvelle génération de ce système, justement pour répondre aux besoins des Européens qui voudraient acheter du matériel européen.
D'accord. Yannick Pincier, on a l'impression que en fait, cet arsenal nucléaire et son expansion éventuelle, la manière de l'utiliser, tout a changé aussi en raison de la menace russe. Et depuis 2 ans, on a l'impression que tout le corpus théorique et conceptuel et tout ce que nous dit le président de la République d'une manière ou d'une autre a été complètement orienté et changé par cette menace qui est présente et qu'on a vu se manifester à plusieurs reprises dans la bouche, dans les mots de Vladimir Poutine.
Nous sortons de 30 ans de gel du débat stratégique, en fait. Ces 30 années, en fait, sont issues de la fin de la guerre froide, d'une part, et de la victoire électorale de François Mitterrand, paradoxalement, parce qu'il a gagné, enfin, de sa réélection, puisqu'il a gagné en triomphant sur Jacques Chirac, notamment sur des questions de défense à l'issue de la première cohabitation. Et depuis, plus personne n'ose contester le président de la République. Il y a eu une nouvelle tentative lors de la seconde cohabitation où Édouard Balladur voulait pousser sur les essais nucléaires, mais la voix du président s'était imposée. Et là, eh bien, on avait oublié en France de discuter de questions stratégiques et c'est ça qu'on avait un peu facilement qualifié de consensus. Mm-hmm. Or, on n'a pas vraiment mesuré en fait quel est le degré d'adhésion des Français à l'arme nucléaire, il y a des sondages, et surtout à des doctrines d'éventuels scénarios.
Bruno Tertrais, au vu des menaces réitérées par Vladimir Poutine, la dernière remonte au 13 mars 2024, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être un risque de conflit nucléaire en Europe ?
Il y en a davantage en termes relatifs que ce n'était le cas il y a 15 ans, par exemple, certainement. Je continue à dire que Vladimir Poutine n'est pas dans une posture de menace. Il reste dans une posture de dissuasion. Ce qui est intéressant, tragique et intéressant dans le cas de l'Ukraine, c'est que tout l'historique, tous les codes, tous les concepts qui ont été développés pendant la guerre froide, finalement, tiennent debout. Ça ne remet pas tout en cause.
Ça remet en cause la non-prolifération. On a signé des traités aujourd'hui, tout ça c'est terminé.
Et alors, pourquoi ? Ah bon ?
Je vous pose la question.
C'est la première nouvelle.
Je vous pose la question.
Si vous me posez la question, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi, à votre sens.
Alors, je vous dis pourquoi.
C'est le cas. Dites-moi.
Pourquoi, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce sera en contradiction avec nos engagements internationaux de non-prolifération ?
Alors, je pense que
est dit par le président.
Je pense que vous faites référence à ce qu'on appelle, sans être technique, l'article 6 du traité de non-prolifération. En gros, les États sont engagés à ne pas faire l'arme nucléaire du moment que les autres désarmaient. Et là, il y a un débat sur le fait de savoir si les pays comme la France ou la Chine ou la Russie ou d'autres respecte bien cet engagement. Mmh. La France, à mon sens, a de bonnes raisons, dit oui, nous le respectons, pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais là où je reviens sur la question de la taille de l'arsenal nucléaire, par exemple, ce n'est pas un concours de qui a la plus... Enfin bon, vous voyez où je vais. On peut très bien exercer une menace très significative vis-à-vis de la Russie en additionnant les forces françaises et les forces britanniques. Donc, ce débat sur l'Europe, ça ne veut pas dire nécessairement que la France devra augmenter son arsenal nucléaire.
Mot de la fin pour ce débat de ce soir. Merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.